gives me immense pleasure to welcome my old friend and colleague, Stephen Tyson, titulaire, enfin, je ne sais pas ce qu'on va parler français ou anglais les deux, titulaire de la chaire Suzuki à l'Université de Princeton des études bouddhiques. Et autorité mondialement connue dans le domaine des études bouddhiques, qui nous fait l'honneur de parler dans le contexte des représentations visuelles du bouddhisme à travers l'Asie dans cette série ici. L'œuvre de Stephen Tyson est remarquablement complète et systématique. Son premier livre porté sur un festival, en fait, un festival destiné à transférer par le moyen du rituel de la nourriture aux défunts. Et son deuxième livre porté sur le dit roi des enfers, donc le purgatoire, le processus du jugement aux enfers, donc l'étape suivante. Hein. Et ensuite, aujourd'hui, il va nous parler du sujet de ce livre, Reinventing the Wheel, la roue de la vie, donc le processus de la réincarnation après le jugement aux enfers. Donc c'est vraiment tout un programme qui se tient, évidemment. Et vous voyez bien qu'il y a des enjeux qui dépassent strictement les études religieuses. Hein. Il y a dans la question du transfert de la nourriture aux défunts des aspects anthropologiques. Hein. Les enfants qui sont nourris par leurs parents lorsqu'ils entrent dans ce monde nourrissent leurs parents lorsqu'ils quittent ce monde. Et ce sont des enjeux anthropologiques. Et c'est ça l'intérêt, en grande partie, des travaux de Stephen Tyson, l'originalité de son choix, son utilisation des sources primaires, hein, qui sont à la fois scripturaires, bien sûr, les textes doctrinaux, mais aussi l'anthropologie, et enfin l'iconographie, donc l'aspect visuel, qui figurera de manière très importante aujourd'hui. Donc je ne vais plus occuper ce temps précieux et passer la parole tout de suite à Stephen Tyson. Bienvenue et merci.
Thank you, Franciscus.
Excusez-moi, donc Stephen va présenter cette conférence en anglais, oui. Mais il parle très bien français et il répondra volontiers après en français à vos questions. Pardon.
It is a great pleasure and an honor for me
C'est
to be here today. J'aimerais
tout d'abord remercier les co-organisateurs de cette série de conférences, l'École française d'Extrême-Orient et le Musée Guimet, et leurs directeurs respectifs, professeur Franciscus Verhelen et M. Jean-François Jarige, d'avoir eu l'amabilité de m'inviter. La contribution que je vais faire aujourd'hui apporte une réponse bien tardive à un certain nombre de questions que j'ai soulevées pour la première fois en 1996, alors que pendant deux mois j'ai enseigné à la 4e section de l'École pratique des hautes études. Je souhaite remercier mes amis et collègues qui m'ont invité à Paris il y a 12 ans, et tout particulièrement M. Jean-Pierre Drey et M. Jacques Jarnet. Lorsque je donnais mes cours à Paris en 1996, ma prononciation du français n'était pas très bonne et je confondais fréquemment le sujet de mon cours, la mort dans le bouddhisme chinois, avec le thème de la romance, l'amour.
Fortunately for the French speakers in the audience today, I'm going to speak, as Francisca said, in English, so you will not have to worry about my inability to distinguish today between the wheel of life, la roue de la vie, and the road or the boulevard of life.
Mais aujourd'hui, je vais parler en français et vous pourrez faire la distinction entre la roue de la vie et la rue ou le boulevard.
When Buddhists talk about what happens at the end of a person's life,
lorsque les bouddhistes parlent de ce qui arrive à une personne à la fin de sa vie, l'une des choses qu'ils disent est que tant que l'on n'a pas atteint le stade ultime de la délivrance, chaque mort est suivie d'une renaissance. De ce point de vue, ce serait donc une erreur de considérer la mort comme une fin. Au contraire, le terme de la vie de chaque individu entraîne inévitablement le début d'une autre. D'après la théorie bouddhiste, une personne retrouve forme corporelle 49 jours après sa mort, à l'issue d'un jugement que l'on pourrait comparer à la notion européenne de purgatoire.
when unenlightened beings die, they will be subject
à leur mort,
to the kind of
judgment les êtres qui n'ont pas
here.
Atteint l'état d'éveil vont être
this
soumis à une forme de jugement semblable à celle que l'on voit ici. Cette scène représente un détenu au purgatoire. Il porte un carcan autour du cou, une lourde pièce de bois qui l'immobilise. Le gardien à tête de bœuf qui se tient à sa gauche le conduit devant le miroir du karma qui reflète avec exactitude les actes qu'il a commis au cours de sa vie. Dans le miroir, on le voit qui s'apprête à tuer un bœuf à l'aide d'une hache brandie au-dessus de sa tête.
The last phase of judgment of the dead occurs
la dernière étape du jugement a lieu juste avant la Renaissance. Ce manuscrit illustré du Xe siècle nous montre un employé assis à son bureau. Il fait le compte des bonnes et mauvaises actions d'un défunt. Sur la gauche, on peut voir les différents sorts réservés à la personne décédée. Si elle a de la chance, elle va renaître sous la forme d'un dieu, d'un demi-dieu ou d'un être humain. Sinon, elle se réincarnera en un animal, un esprit affamé, ou un être infernal ébouillanté dans un chaudron. Les traditions bouddhistes offrent également la perspective d'une bonne mort, qui contraste avec la mauvaise mort que la plupart d'entre nous subiront. Seuls les êtres parfaitement éclairés pourront échapper au processus douloureux et interminable du cycle des renaissances. Comme vous le savez, en termes bouddhiques, cette délivrance porte le nom de nirvana, ce qui littéralement signifie extinction. Les disciples du Bouddha qui n'ont pas atteint l'éveil, représentés sur le relief de Gandharan, au-dessus du Bouddha et à sa gauche, pleurent sa mort et expriment leur douleur face à l'impermanence, alors que le Bouddha, lui, conserve son expression de sérénité au moment de son extinction. L'utilisation d'une roue ou d'un cercle est l'une des images les plus courantes pour mettre en évidence le caractère répétitif du cycle des renaissances. Voici quelques termes utilisés en sanskrit et en chinois pour la roue de la vie. Le mot sanskrit chakra signifie bien entendu roue ou cercle. Les mots grecs kirkos et latin circa lui sont apparentés. Le mot samsara veut dire qui s'écoule avec ou qui transmigre. Le cercle n'a probablement pas été la première métaphore utilisée par les auteurs bouddhistes pour parler du processus des renaissances. On trouve en fait une grande variété d'images pour parler du samsara dans les tout premiers textes. Une longue nuit, un nuage, une montagne, le désert, un vaste océan, une rivière, un abîme, une falaise, de la boue, une prison, une ville fortifiée, un filet ou un collet, une armée, un feu, une maladie grave. Mais la métaphore qui est devenue vraiment populaire dans le bouddhisme médiéval et qui est la plus représentée aujourd'hui sur les peintures tibétaines est celle de la roue. Voici une peinture sur soie du 19e siècle que l'on peut admirer au musée Rubin de New York. Cette peinture tibétaine montre le contraste entre le samsara, le royaume du cycle de la vie et de la mort, décrit à l'intérieur du cercle, et la délivrance du samsara, évoquée par les personnages situés à l'extérieur de la roue. Les six formes de vie dans lesquelles les êtres sensibles peuvent renaître sont représentés par les six quartiers de la roue. Techniquement, ici, la roue est seulement divisée en cinq, mais deux des six voies de la Renaissance figurent en fait dans le même quartier, en haut à gauche. En haut, on voit les dieux dans leur palais, ils siègent sur leur trône.
While below them and to the left,
en dessous, à gauche, des demi-dieux ou Asuras les attaquent. les demi-dieux qu'on voit, entre autres, le fruit de l'immortalité qui tombe des branches de l'arbre magique. Les racines de l'arbre plongent dans le monde des demi-dieux, mais le fruit tombe dans le royaume des dieux.
Over on the other side of the fence, as it were, in the realm of the gods. Human beings are located in the top
les êtres
right
humains
of the circle,
se trouvent en haut à droite et vaquent à diverses
class.
Activités selon le
top
groupe auquel ils
realm,
appartiennent. En haut,
we see monks entering a
on voit des moines pénétrer dans un monastère.
Wedding procession or some kind of party,
un mariage ou son cortège est représenté en dessous. On y voit un gentleman britannique portant
what looks like a pith helmet,
ce qui ressemble à une tenue tropicale et à un casque colonial.
Hell beings are placed at bottom, center,
les créatures de l'enfer sont placées en bas, au centre.
Hungry ghosts are placed next to them,
les esprits affamés en bas à droite.
And hell beings and animals are represented
et les animaux en bas à gauche.
The six realms are surrounded by the outermost
un anneau entoure le cercle qui contient les six mondes.
The outermost ring depicts 12
il est divisé
segments.
En 12 segments,
12 conditions,
12 maillons qui représentent les 12 facteurs ou causes fondamentales, nidana, du cycle de production dépendante, pratitya samutpada. Un aveugle
there is a blind man. He is supposed to represent ignorance.
Pour représenter l'ignorance se trouve à la position de une heure. Dans le sens des aiguilles d'une montre vient ensuite un potier.
The potter's shaping of pots is a symbol
il est en train
actions.
De façonner des pots, ce qui symbolise l'action.
Is a monkey,
à 3 heures, un singe descend du toit d'une maison en sautant. Sa curiosité et sa faible capacité d'attention signifient la conscience. Si l'on se déplace vers le dernier symbole, juste avant la position de midi, on voit un cadavre enveloppé dans un sac que l'on transporte vers un tumulus. Il représente la mort et est lié par l'enchaînement des causes au premier maillon de la chaîne, l'état d'ignorance ou d'aveuglement, là où tous les individus commencent leur vie. Ainsi, les 12 symboles ne montrent pas uniquement comment sont reliées les étapes d'une même vie, mais également comment les actions trompeuses commises au cours de la vie ont des répercussions dans la suivante.
Grasping the entire wheel in his claws is this large figure.
Le grand démon de l'impermanence enserre la totalité de la roue dans ses griffes. Cette peinture le représente sous les traits de Yama, le maître des enfers dans la mythologie bouddhiste. En plaçant l'ensemble des six voies sous le contrôle de Yama, qui règne habituellement sur le monde inférieur des renaissances, la peinture montre que toutes les formes de vie sont inévitablement sujettes à la souffrance. D'autres indications concernant la qualité de la vie à l'intérieur de la roue sont situées sur son axe. Les trois animaux représentent les trois poison ou souffrance psychologique de base, le pigeon ou sa variante, le poulet représente le désir, le cochon l'illusion et le serpent la haine. Cette image montre également que les êtres sensibles ont la possibilité d'échapper aux morts répétées. Quelques solutions sont présentées à l'intérieur du royaume de la vie et de la mort, telles que les personnages dans le demi-cercle blanc à gauche, qui, en fournissant aux laïcs un enseignement moral, montrent que l'on peut progresser. Le Bouddha, qui apparaît sous différentes formes, chacune adaptée aux besoins des êtres sensibles, est un autre élément de salut que montre cette peinture.
Among the gods, the Buddha appears as a musician.
Réincarné parmi les dieux, le Bouddha est représenté sous la forme d'un musicien jouant de la flûte, car les pensionnaires du paradis n'écouteront que des sons harmonieux. Parmi les êtres humains, le Bouddha apparaît sous les traits d'un prédicateur et ainsi de suite. L'évocation la plus claire de la libération du samsara est peinte tout à fait à l'extérieur du cercle, en haut.
At top right, beyond the clutches of the demon,
dans le coin supérieur droit, au-delà des griffes du démon, deux personnages saints semblent flotter. Le Bouddha Sakyamuni est le plus grand. D'un geste du doigt, il fait signe à son disciple Moggallana de regarder la roue qui se trouve à gauche de l'autre côté de la peinture. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une roue de la vie. Celle-ci possède 8 rayons et ne représente pas la roue du samsara, mais celle du Dharma, Dharma Chakra, dont les 8 branches figurent l'octuple sentier de la pratique. Des vers rédigés en tibétain sont placés sous la roue et font l'éloge des vertus de la renonciation, mais ils sont difficiles à distinguer sur cette photo. Si nous devions établir un calendrier chronologique des peintures de la roue, nous placerions en première position une description littéraire plutôt qu'une peinture en elle-même. Cet extrait est tiré des règles monastiques, Vinaya, de l'une des sectes les plus anciennes du bouddhisme indien, le Mulasarvastivada. On y trouve une longue histoire dans laquelle le Bouddha enseigne à ses disciples comment peindre la roue de la vie sur les murs extérieurs du monastère. L'histoire raconte que Moggallana, un disciple du Bouddha, était extrêmement populaire. Des foules importantes se réunissaient pour l'entendre raconter les récits de ses exploits dans l'autre monde. Ses incursions aux enfers intéressaient tout le monde, et d'après le récit, les autres disciples du Bouddha eurent tôt fait de jalouser la popularité de Moggallana. Pour remettre Moggallana à sa place, le Bouddha donna aux autres moines des instructions pour peindre la roue de la vie sur le porche du monastère. D'après le Vinaya, Sakyamuni décrit avec précision la manière dont la roue doit être représentée. Les instructions canoniques concordent avec la peinture tibétaine que nous venons de détailler. Les moines devaient peindre les 3 poisons au centre de la roue et représenter le désir sous la forme d'un pigeon, la haine sous celle d'un serpent et l'illusion sous celle d'un cochon. Autour, la roue devait se diviser en 5 parties, ou 6 selon des récits ultérieurs. Dans le cercle le plus extérieur, il fallait peindre chaque maillon de l'enchaînement des causes. Le Bouddha précise même le symbole qui doit être utilisé pour chacun des 12 maillons, ou 18 selon d'autres récits. Il fait également allusion au démon de l'impermanence qui agrippe la roue, au symbole de transcendance à placer à l'extérieur de la roue, par exemple un cercle blanc pour figurer le nirvana, et au vers vantant les vertus de la renonciation. Le Bouddha conclut ses instructions en décrétant qu'un prédicateur doit se placer près de la peinture afin d'expliquer à tout visiteur les lois de la rétribution karmique.
The original Mulasarvastivada Vinaya was written in
Le Vinaya Mulasarvastivada d'origine a été écrit en sanskrit et il en subsiste encore quelques extraits. On retrouve sa trace dans le nord-ouest de l'Inde au 2e, 3e et 4e siècle. On retrouve de nombreux récits du Vinaya, dont celui concernant notre roue de la vie, dans des passages analogues du Divya Vadana. Le Vinaya d'origine en sanskrit fut traduit en chinois au début du 8e siècle, puis en tibétain une centaine d'années plus tard. Avançons un peu dans le temps et nous arrivons à la peinture la plus ancienne qui subsiste de la roue de la vie. Elle se trouve à Ajanta, dans le centre-ouest de l'Inde. Elle date de la fin du 5e siècle. Cette carte représente le sous-continent indien tel qu'il était à l'époque, sous le règne de 3 dynasties, les Vakataka au centre, les Pallava au sud et les Gupta au nord et à l'est. La peinture d'Ajanta se trouve dans la cave 17, qui fait partie d'une longue série de temples rupestres creusés dans les falaises. Voici la cave 16 et la cave 17 à gauche. À l'époque, on accédait à la cave en gravissant une série d'escaliers à partir de la rivière. La peinture est située sous le porche de la cave 17, du côté gauche. Voici tout ce qu'il subsiste de la peinture d'origine. Et l'interprétation de l'iconographie fait encore l'objet de débats animés. Je me réfère à l'interprétation que nous a donnée dans les années 90 un savant japonais, Sadakane Keiji. La peinture d'origine de cette roue présentait probablement 8 sections et non 5 ou 6.
D'après Sadakane, la peinture obéit scrupuleusement aux prescriptions canoniques. Les trois mondes inférieurs des Renaissances étaient représentés dans les trois sections du bas, aujourd'hui disparues. Au milieu, l'enfer, et de chaque côté, le monde des esprits et des animaux. En haut, au centre, se trouvait le royaume des dieux.
Dans les deux sections à droite, and the two sections to the left of the heavens, according to Sadakane, are depicted the four continents.
Et selon Sadakane, les quatre continents figurent dans les deux sections à droite et les deux sections à gauche du paradis. Ce petit détail en bas à droite constitue l'argument irréfutable.
This appears to be a large.
Il semble que ce soit un homme.
A large man.
De grande taille, qui tient une femme plus petite sur ses genoux devant un arbre courbé au-dessus d'eux. D'après Sadakane, il s'agit d'Uttarakuru, le continent où le feuillage des arbres ondule comme par magie pour abriter les amours des couples et pour leur confort. Je tiens également à attirer votre attention sur l'architecture du temple rupestre d'Ajanta. La cave 17 est une résidence monastique, ou vihara. Elle a été conçue avec un grand hall de réunion carré en son centre et un porche à l'extérieur où se trouve la roue de la vie. Des peintures représentant des récits de style Jataka ornent les murs de la salle de réunion. Celle-ci est entourée de cellules, chambres des moines et un sanctuaire contenant une statue du Bouddha Sakyamuni forme l'arrière du temple. Si l'on imagine la disposition du programme iconographique, et que l'on considère le temple rupestre comme un lieu rituel, alors nous voyons en premier que la roue de la vie, peinte sur le mur du porche, fait office d'introduction au monde de la vie et de la mort. Puis, dans le temple principal, les peintures de style Jataka dépeignent la perfection atteinte progressivement au cours de plusieurs vies par l'être qui va devenir Bouddha. Et enfin, le sanctuaire, à l'arrière, permet aux visiteurs une rencontre directe avec le Bouddha lui-même. Après la vaste cave d'Ajanta, c'est dans un minuscule sanctuaire rupestre au nord de la route de la soie et datant de la deuxième moitié du 9e siècle que l'on trouve le vestige suivant de la roue de la vie. Il s'agit du site de Kumtura, qui n'est pas très éloigné du site archéologique de Kizil, mieux connu, aujourd'hui rattaché à la région autonome ouïghour du Yingjiang. Les caves de Kumtura, proches de la capitale du royaume médiéval de Kuché, ont été construites sur une période d'au moins 7 siècles. Les caves reflètent toutes les influences culturelles qui ont traversé la région, de la culture locale Kuché. Kuché était la ville natale de Kumarajiva, à l'influence tibétaine, car l'empire tibétain à son apogée s'étendait sur une région plus vaste que celle de la Chine des Tang, en passant par la domination chinoise en tant que poste militaire avancé du premier gouvernement Tang jusqu'au contrôle ouïghour.
Two tiny paintings of the Wheel of Rebirth.
On trouve deux minuscules peintures de la roue de la vie sur le mur latéral d'une petite cave dédiée à la méditation.
Although the paintings,
bien que les peintures ne fassent que
20
cm de diamètre,
and they're very faded,
et que les couleurs soient passées, il ne fait pas de doute qu'elles représentent des roues de la vie, samsara chakra, tel que je définis le terme. Les animaux situés sur le moyeu symbolisent les trois poisons. La rangée suivante représente les cinq voies, et le cercle extérieur est divisé en 12 sections qui représentent la chaîne de causalité. Les roues se détachent de l'ensemble des fresques et sont situés parmi des rangées de moines en position assise qui semblent écouter un enseignement ou méditer. La peinture d'un moine en train de méditer, représentée plus grand que nature, domine le mur principal de la cave sur lequel se trouvent les roues, comme on le voit sur la photo de gauche.
His robe, the folds of his robes around his arms and his legs. His hands hold a bowl.
Dans les mains, il tient un bol d'où émanent les six voies de la Renaissance.
Arrayed around him. The ceiling and sidewalls of the cave.
Le plafond et les murs latéraux de la cave sont couverts de rangées de bouddhas en train de méditer, de bodhisattvas et de moines, ainsi que de rangées de portraits de donateurs, moines ou laïcs. Selon moi, ces minuscules roues sont une emphase iconique du programme principal de méditation de la cave. Elles constituent un rappel artistique du type d'exercice de visualisation décrit sur le mur principal. La cave ne fait que 1,68 m de hauteur et elle est difficile d'accès car la petite entrée se situe à environ 3 mètres au-dessus du sol. La peinture, indiscutablement la plus ancienne de la roue de la vie que l'on puisse trouver en Chine, est conservée dans les temples rupestres des falaises de Yulin, près d'Anxi, dans la province de Gansu ou Guizhou à l'époque Tang. Elle date du début du Xe siècle. Dans mon livre, j'avance la possibilité que d'autres temples bouddhistes ailleurs en Chine aient contenu des peintures de la roue de la vie dans leurs antichambres en bois qui ont été détruites. Mais c'est l'objet d'une autre discussion. Tout comme les caves de Mogao, près de Dunhuang, les temples de Yuling sont creusés à flanc de falaise et forment un ensemble de grands temples rupestres. C'est la cave 19 qui nous intéresse. Elle fut creusée au début du Xe siècle. À Yulin, un grand nombre de caves sont constituées de deux pièces. Une pièce centrale, le noyau rituel ou apogée du programme, une antichambre et un long couloir d'entrée. Le sanctuaire le plus enfoncé de la cave reconstitue le paradis, un lieu au-delà de toute souffrance. À l'origine, une statue du Bouddha se dressait au centre sur un autel et sur les murs lui faisant face figurait la terre pure occidentale et la terre pure orientale. Voici la terre pure occidentale et Amitabha en son centre. Avalokiteshvara se trouve à droite et Mahastamaprata à gauche. L'antichambre, que je ne vais pas vous montrer, contient des scènes de prédication et des protecteurs du Dharma. Les peintures sur lesquelles je souhaite m'arrêter se trouvent dans le couloir, la partie la plus à l'extérieur de la cave. Le programme des peintures de la cave 19 de Yulin offre une interprétation unique du récit Vinaya. La roue de la vie est placée face à ce tableau qui décrit le voyage en enfer effectué par Modgalyayana. Les concepteurs de la cave semblent donc se référer au texte canonique. En plaçant la roue dans le hall extérieur, ils adhèrent également aux prescriptions du Bouddha qui recommandaient que ces représentations pédagogiques soient placées près de l'entrée du temple. La peinture de la roue présente aux visiteurs les différentes variétés de vie au sein du samsara avant qu'ils ne parviennent au paradis au centre. Cette version de la roue de la vie contient plusieurs éléments canoniques. Son centre est très abîmé, mais il semble qu'il s'y trouve un personnage seul, peut-être une femme, qui rend hommage à quelqu'un se trouvant sur l'axe. Autour, sur le second anneau, on ne voit plus que trois voix sur les six d'origine. Le cercle suivant, les anneaux de la chaîne des causes, sont ici au nombre de
18. Contains a representation without any apparent precedent.
Le dernier anneau de la roue montre une scène qui n'a apparemment pas de précédent dans l'histoire du bouddhisme. Au sommet de ce cercle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, une silhouette à l'horizontale se déplace à travers ce qui ressemble à un tonneau et qui masque son corps. Cette silhouette a une tête humaine, mais les jambes d'un cerf. Peut-être une chèvre. C'est la représentation d'une créature en cours de transmigration, un cerf qui se transforme en être humain devant nos yeux. Pour nous résumer, la roue de la vie de Ulin est donc placée dans un couloir qui mène au paradis, un royaume de perfection dépeint sur les murs et invoqué à l'intention du visiteur. Située physiquement à l'extérieur de l'espace sacré, la roue de la vie et les représentations de Maudgalyayana sont donc plus ou moins une paraphrase du texte canonique. Elle constitue un prélude narratif qui mène à l'adoration du Bouddha et à la rencontre de son royaume de pureté au centre de la cave.
En continuant
d'avancer dans le temps, nous revenons aux roues de la vie présentes dans les temples de la sphère culturelle tibétaine. L'une des plus anciennes se trouve à l'ouest du Tibet. Au début du XIe siècle, la famille qui régnait sur les anciens royaumes de Gugu et Purang ordonna la construction d'un vaste temple de bois et de briques séchées. On trouve une peinture de la roue de la vie sur le mur de son hall d'entrée. Elle se trouve dans le temple principal de la ville de Thabo, aujourd'hui dans l'Himachal Pradesh en Inde.
Voici
l'une des quatre déesses qui se tiennent à l'extérieur de la roue, qui n'est que partiellement intact. Les vers de renonciation sont rédigés en haut à droite. Au sein du cercle extérieur, on voit des êtres passer au travers de tonneaux, mais ici, ils ne changent pas d'espèce.
This section of the wheel.
Cette section
probably depicts life in the heavens.
Décrit probablement la vie au paradis.
The temple at Thabo was founded by the monk
le temple fut d'abord fondé par le moine et ancien roi Yesheo au début du Xe siècle et restauré vers l'an 1000.
The wheel at Thabo is located
la roue se trouve dans le hall d'entrée
along with portrayals of local tutelary deities.
Entouré de portraits de divinités tutélaires locales.
À Thabo,
tout comme dans d'autres sites, la fresque de la roue sert d'introduction au programme rituel exposé dans l'enceinte du temple. Mais le contenu du programme rituel de Thabo, et donc la signification de la roue de la vie qu'il introduit, est unique. La roue de la vie de Thabo annonce un rituel tantrique dans lequel l'identité du pratiquant se fond avec celle du Bouddha vers Okana. Le rituel s'effectue par l'intermédiaire d'un mandala en trois dimensions qui représente les 33 divinités du monde du diamant. On peut en voir quelques-unes ici. En résumé, une personne qui visite le temple doit d'abord passer sur le plan spatial de l'autre côté de la roue de la vie avant d'être en mesure de célébrer le rite de l'unification. En suivant la chronologie, on trouve l'exemple suivant de la roue de la vie à Baodingshan, lieu de pèlerinage du XIIIe siècle, situé près de la ville de Dazhu, région du Chongqing, dans le Sichuan, en Chine. Bien que l'Asie ait été en grande partie intégrée à l'Empire mongol, de nombreuses régions du monde asiatique ont conservé des traditions locales fortes. Ceci est particulièrement flagrant à Baodingshan. Au Sichuan, la roue semble être à l'opposé sur le plan architectural de toutes celles que nous avons vues jusqu'ici. On ne la trouve pas dans un couloir auquel on accède après avoir pénétré dans un temple. Elle n'orne pas le mur d'une petite cave isolée. Elle n'est pas non plus une introduction à un mandala tantrique. Au lieu de cela, la roue de Baodingshan est une sculpture rupestre de plus de 7 mètres de haut qui s'offre à la vue de tout visiteur. On dénombre environ 10 000 sculptures rupestres sur le site, qui furent achevées vers l'an 1250 sous le patronage d'un moine de la région, Zhao Jifeng, de son nom laïque. Sur cette scène de Paranirvana, on voit Zhao au premier plan, sous le regard du Bouddha. Zhao a conçu ce site comme un abrégé narratif des enseignements bouddhistes de base, mais aussi comme un hommage au miracle accompli par Liu Benzun, saint homme de Sichuan, célèbre pour son ascétisme extrême et que l'on voit ici représenté au deuxième rang. La roue de la vie de Baodingshan se trouve à l'entrée du site. La Samsara Chakra prépare le visiteur, lui fournissant quelques données de base en matière d'attitude morale et de cosmologie. Après quoi, le pèlerin est prêt à étudier d'autres signes et à recevoir d'autres enseignements. Les trois poisons sont dépeints au centre de la roue sous leur forme animale, selon les textes canoniques. Les six voies de la Renaissance figurent dans le premier cercle autour du centre. Les deuxième et troisième cercles à l'extérieur du moyeu sont chacun divisés en 18 segments qui représentent des éléments que nous avons vus précédemment, les maillons de la chaîne de causalité et le passage d'une espèce à une autre. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la roue de la vie de Baodingshan est son axe. Un personnage, le corps à demi drapé d'une robe, est assis au centre de la roue. Il a les cheveux bouclés et est en position de méditation. Six rayons émanent de sa poitrine à l'intérieur desquels on distingue un certain nombre de personnages plus petits. Je pense que ce personnage représente Zhao Jifeng, le fondateur du site.
Cette scène semble suggérer que le fait de concevoir le programme sculpté de Baodingshan conférait à Zhao Jifeng la responsabilité de définir lui-même les six voies ainsi que les bouddhas qui agissent à l'intérieur et au-delà de celles-ci.
Ainsi, le créateur du site ne diffère pas du pèlerin qui s'y rend, en cela que chacun d'entre eux est doté de la capacité d'atteindre le salut. La route vers la transcendance débute littéralement au cœur du samsara. Toute personne visitant des temples tibétains à travers le monde, en Inde, au Tibet, au Sichuan, à Gansu, Qinghai ou en France, trouvera des peintures de la roue de la vie aux abords des temples. La roue de gauche est celle de l'un des collèges du monastère Sera à Lhasa, et celle-ci, à droite, est une reconstitution moderne qui se trouve au monastère de Ganden. Cette roue figure à l'extérieur d'un couloir menant à une chapelle au premier étage du monastère de Tashilimpo à Shikatse. Dans ma conclusion, je vais m'interroger sur ce qui peut expliquer cette unité que l'on rencontre au Tibet, en particulier si on compare avec le nombre relativement peu élevé de ce type de fresques dans les temples chinois. Permettez-moi donc maintenant de tirer un certain nombre de conclusions. Je vais me limiter à cinq afin qu'il nous reste un peu de temps pour la discussion. Premièrement, La cosmologie est un élément central du bouddhisme.
Ideas about time and space,
les concepts de temps et d'espace, la théorie du cycle des renaissances, la loi du karma et l'élan qui pousse à aller vers la délivrance et le salut sont des éléments prépondérants, voire omniprésents, dans les cultures bouddhistes. Aux bouddhistes modernes qui souhaitent que les enseignements traditionnels du cycle des renaissances soient débarrassés de leur mythologie, je répondrai que ces enseignements constituaient une partie essentielle de la tradition bouddhique prémoderne. Deuxièmement, si la cosmologie a son importance en tant qu'enseignement dans les productions artistiques que je vous ai montrées aujourd'hui, que pouvons-nous dire de cet art sur le plan esthétique? Comment fonctionne-t-il? En quoi est-il différent d'autres formes d'art bouddhique? Je dirais que pour la plupart, les représentations de la roue de la vie, observées dans leur contexte, constituent un art didactique. Elles transmettent un enseignement et utilisent pour cela une technique particulière. La plupart favorisent une prise de distance entre le spectateur et la peinture. Les peintures de la roue de la vie militent contre un investissement personnel direct dans le sujet pictural. Les Bouddhas sont présents sur la peinture, mais ils ne dominent pas la composition, pas plus qu'ils ne regardent le spectateur en face, ne cherchent à l'attirer à l'intérieur de la peinture, ou ne servent d'intermédiaire à une expérience du sacré. La peinture incite plutôt le spectateur à s'écarter, l'encourage à prendre du recul et à réfléchir. Pour apprécier la peinture, on est censé garder le contrôle de soi-même et exercer sa pensée. Pour celui qui l'observe, la peinture n'a de sens qu'après qu'il en ait analysé les différentes parties et saisi la logique de ses correspondances. Mon troisième point se rapporte à la nature même de la roue, à la fois à ses qualités géométriques et à ses propriétés culturelles. En premier lieu, certains aspects de sa qualité circulaire favorisent particulièrement une vision bouddhiste du monde. Comme le souligne Paul Mus dans La lumière sur les six voies, le cercle permet de délimiter un intérieur et un extérieur, habituellement représenté par la vie de souffrance à l'intérieur du samsara, par opposition au salut et à l'évasion des griffes de Mara à l'extérieur de la roue. De même, le caractère circulaire de la représentation évoque la répétition et, dans l'absolu, l'absence de commencement. Les 12 nidanas du premier cercle de la roue exploitent cette propriété géométrique du cercle. Deuxièmement, remarquez que le samsara chakra n'est pas un simple cercle, mais une roue.
Hub, it has spokes, it has a rim, and it has an inside. All wheels have hubs or axles.
Mais comment définirions-nous une roue? D'abord, toutes les roues ont des moyeux ou des axes. Sur la plupart des peintures, les passions qui conduisent l'existence des êtres sensibles constituent le moyeu. Cependant, sur cette estampe colorée à la main, une illustration japonaise du XVIIe siècle des 10 mondes de la contemplation de l'esprit, c'est le mot « esprit » qui forme le centre de la roue. Remarquez également que plutôt que de fonctionner comme un moyeu, l'esprit au centre de la composition est la source d'où émanent les 10 royaumes. Un autre élément caractéristique de la roue et qu'elle est constituée de rayons qui la divisent en différentes parties. Sur la plupart des peintures, les quartiers formés par les rayons sont illustrés par les six voies de la réincarnation. Elles diffèrent relativement les unes des autres, mais dans l'absolu, elles sont toutes de manière identique, marquées par la souffrance. Enfin, ce qui caractérise encore une roue, c'est qu'elle possède une jante. Les roues tournent et leurs jantes fournissent aux artistes et aux prédicateurs un moyen supplémentaire d'expliquer la mesure du temps. Certaines roues montrent le passage d'une espèce à une autre à l'aide de la couronne qui tourne, alors que d'autres l'utilisent pour montrer les liens qui existent entre les 12 étapes de l'enchaînement perpétuel des causes.
To appreciate fully how well the suited,
pour apprécier
the
pleinement
the wheel
à quel point le symbole de la roue est parfaitement adapté à la vision bouddhiste du monde, il nous suffit d'examiner les tentatives qui ont été faites d'utiliser la roue dans le but d'expliquer une cosmologie radicalement différente, celle du christianisme moderne, par exemple. Voici une photo que m'ont envoyée des collègues tibétologues. Leurs étudiants ont trouvé cette illustration par hasard sur le site web d'un groupe de missionnaires protestants qui travaillent parmi la population tibétaine. La roue chrétienne emprunte à la roue bouddhiste sa forme générale, utilise le moyeu, reprend l'idée des rayons et de la jante. Mais remarquez comme ces caractéristiques sont utilisées à des fins différentes. Selon les missionnaires, la croix placée au centre de la roue représente le pardon total des péchés par la mort de Jésus sur la croix. Là où il y avait six voies, ou 12 nidanas, la roue chrétienne représente, dans le sens des aiguilles d'une montre, 12 événements de la vie de Jésus, en commençant par sa naissance, à 1h, jusqu'à sa résurrection, à 10h, son apparition devant les disciples, à 11h, et son ascension, à midi. Mais voyez que les missionnaires sont littéralement contraints de briser la jante de la roue afin d'adapter le symbole bouddhiste à une image appropriée au christianisme. La section est d'abord brisée lorsque Jésus quitte le royaume éternel et lui a pour venir au monde, et une deuxième fois au moment de son ascension qui ouvre aux mortels la voie du royaume des cieux. Mon quatrième point de conclusion se rapporte au rituel.
My fourth point has to do with ritual. We cannot understand a representation.
Nous ne pouvons prétendre comprendre une représentation de la roue de la vie sans la replacer dans son contexte rituel ou son cadre performatif. Nous l'avons vu dans le récit canonique, le Bouddha recommandait que les peintures de la roue soient placées de sorte à servir d'introduction au programme rituel et artistique principal. Mais il a laissé toute latitude quant au contenu de ce programme rituel principal. La circambulation d'un stupa, la contemplation de Sakyamuni, la visualisation de la terre pure ou la fusion avec Vairocana. Ainsi, les exemples des roues de la vie que nous avons regardées aujourd'hui sont tous placés au début du programme rituel. Et ce, quelles que soient les régions où on les trouve. Elles sont similaires car elles constituent toute une première étape, mais elles sont différentes car, passé l'introduction, les étapes varient d'un programme à un autre. Enfin, arrêtons-nous sur les transformations de contenu, de support et de cadre performatif que l'on peut observer à travers les différentes cultures bouddhistes de l'Asie. Une question d'importance, pourquoi y a-t-il relativement peu de peintures de la roue de la vie en Chine alors qu'il y en a davantage au Tibet? J'ai déjà apporté un élément de réponse en parlant du Vinaya. Dans le bouddhisme indien médiéval, chaque congrégation monastique conservait son propre Vinaya. Et autant que je sache, l'histoire se rapportant à la roue de la vie ne figure que dans un seul de ces Vinayas, celui qui appartient au Mula Savastivadin. Au Tibet, lorsque le Vinaya fut traduit du sanskrit en tibétain, afin de fournir aux moines et aux rois de la région un guide de pratique monastique, le Mula Savastivadin fut le seul à être traduit. À ce jour, les Tibétains ne connaissent donc qu'une Vinaya, celui qui comprend les instructions du Bouddha concernant la manière de peindre la roue de la vie sur le porche d'un temple. En Chine, en revanche, 5 textes canoniques Vinaya ont été traduits en chinois, et seul l'un d'entre eux raconte l'histoire de la roue de la vie. De plus, en termes de pratique, ce Vinalayala n'était pas le plus directif. J'en conclus donc que le canon a son importance.
Another reason for the relative paucity of paintings of the Wheel of Rebirth in China.
Il y a une autre raison qui peut expliquer le fait qu'il y ait relativement peu de peintures de la roue de la vie en Chine. Les différents mondes dépeints à l'intérieur de la roue étaient souvent représentés individuellement en dehors de la roue dans des peintures spécifiques. Les mondes inférieurs et supérieurs, en particulier, étaient des thèmes de prédilection.
According to the literary descriptions
selon les descriptions littéraires des temples chinois médiévaux, la visualisation de la terre pure du Bouddha d'Amitabha était un thème très apprécié dans les temples urbains.
Directing our gaze downward, as it were, we should also note that the most highly valued painters of medieval China were prized for their murals of the underworld.
Mais il a son revers. Il est clair qu'au cours de leur carrière, les peintres les plus renommés de leur époque ont lorgné vers les mondes inférieurs et furent appréciés pour leurs fresques du dieu Yama et leur représentation des tortures de l'enfer. Ces différents points m'amènent à une série de déductions finales concernant le sort de la roue du samsara au Japon. Je n'ai pas étudié de documents japonais de manière approfondie, mais il semble que la roue des cinq ou six voies ait subi deux modifications importantes au Japon. Tout d'abord, l'ajout de quatre voies, ce qui en fait dix au total. Les quatre ajoutées aux six d'origine ont par conséquent déplacé la classification des êtres au-delà des confins du samsara. Sravaka, Pratyeka, Buddha, Bodhisattva et Bouddha. Il est donc normal que les dix mondes qui sont souvent représentés au Japon ne soient pas limités à l'intérieur d'une roue ou d'un cercle. L'autre changement a nécessité un support et un public. Comme en témoigne cette peinture du début du XVIIe siècle, des conteuses utilisaient des peintures des dix mondes qui se rattachaient à des lieux de pèlerinage précis, telles celles-ci provenant du sanctuaire de Shimoyoshi.
A feather tip at the end of a pointer to explain different realms within the ten realms depicted on the main painting. Loosened from their earlier placement on temple walls, such paintings in
Japan,
like the modern Tibetan
peintures portables japonaises détachées des murs des temples où elles se trouvaient d'abord, peuvent être déroulées et commentées à l'extérieur des temples ou même accrochées à la maison pour un usage privé. Ainsi, je termine mon exposé et je serai heureux d'accueillir vos commentaires et de répondre à vos questions. Merci.
Suggestions as to how to read this image of the wheel of rebirth. And indeed, I think it's no accident that in your work, which has gone now through several major stages represented by a whole series of books, the figure of Mokka Yagana comes back again and again, who's the witness, not just your witness to what you explained to us, but also the witness in general, whose testimony then translates into scripture, into text, into vinaya, into images, into techniques for contemplation, and also into rituals, as you say, and very importantly. So this is really death as lived by the survivors who need instruments to intervene in the fate of their ancestors, their parents who've preceded them already into death, and who also need to prepare themselves for their own death. So this is really as you say, a worldview rather than an abstract theology. It's a worldview and a way of living death, which I find extremely interesting and attractive. But we have some eminent specialists here of Central Asia, of India, of Tibet, of China, of Japan. So I would like to invite you to ask your questions or comments to Stephen Pizer. Vos observations ou vos questions à notre conférencier en français.
En français, oui.
Vous pouvez prendre la parole.
Oui.
Je vois donc André, il est à l'origine vraiment de cette proche coopération que nous avons avec Steve Pizer, qui a invité Thaïs à la quatrième section de l'État pratique de l'étude, il y a 10 ans. Il est grand spécialiste d'Aung Wan, donc c'est à la fois des écritures et des images qui ont inspiré aussi une grande partie des travaux de Thaïs. Est-ce que tu veux demander une question?
Franchement, je ne suis pas vraiment spécialiste de ce domaine. Hein. Je me dirais que des défis.
Merci beaucoup.
Madame. Par tout le monde, c'est-à-dire est-ce que n'importe quel visiteur comprenait que en voyant le serpent ou en voyant le coq, cela représentait immédiatement les trois poisons, ou est-ce que en voyant, si j'ai bien compris, le potier ou ces autres personnages, est-ce que c'était vraiment évident pour un visiteur de comprendre la signification, ou est-ce que ce type d'image était plus compréhensible par des religieux qui connaissaient le Vinaya, qui connaissaient les Écritures? C'est juste une réflexion. Enfin, moi-même, je serais incapable de comprendre le symbole, la représentation de ces images.
Cette question est très importante, je pense. Comme vous avez dit, normalement, pour la première fois, voir ce type de peinture, les symboles ne sont pas transparents, n'est-ce pas? On doit étudier qu'est-ce que c'est le sens d'un symbole. Peut-être je parle en anglais, peut-être perhaps easier if I may. The paintings and the temples themselves are sometimes ambiguous. They seem to be designed for a broad public, for a common people, for le grand public, on the one hand, and that seems to be the intention in the Vinaya account when the Buddha instructs his disciples to paint the wheel on the outside of the temples, not the inside, station a preacher, someone there to explain the paintings. On the other hand, many of the temples in which we find the paintings are essentially private temples. They're not open to everyone. They are a private family shrine. They are the ruler's temple at Ajanta. They're the established by the ruler of the Western Vakatakas, similarly at Yulin. The exception, of course, is the temple complex at Baodingshan in Sichuan. That's a temple, but it's very much open to the public and always has been. Similarly, the tankas, once the paintings were put in a portable format, they have a very different purpose and they have a very different use opened up to them. They can be transported, they can be shown by itinerant storytellers, and so forth. So it's possible to educate more broadly once you take them off of a temple wall and send them around. But you'll notice even here in the painting from the Sumiyoshi Shrine, there's a storyteller here, and presumably even a storyteller, whether secular or religious, would be explaining some of the items in the painting and pointing out what some of the symbols mean. So. Madame.
Nous avons examiné, vous les connaissez bien, des peintures représentant Tutigawa, et derrière lui, il y a justement les six bois de Renaissance. on ne peut pas quand même faire de lien avec sa présentation des roues de la vie. Et il est assez curieux qu'il n'y ait qu'à tout moment qu'on ait ce type de représentation du tas de Chitigarba avec les six voies de la naissance derrière. Et vous, une explication.
C'est une question complexe, un peu complexe, n'est-ce pas? Je pense que dans le bouddhisme, il y avait quelques sortes de représentations de la cosmologie bouddhique. Un type est, comme vous avez dit, concernant le Kshitigarbha et les six voies. Je n'ai pas porté un cliché de ce sujet. Il y a aussi les versions comme ça. C'est le so-called cosmological Buddha, with a Buddha in the center, Mount Sumeru in the center of the chest, and the sun and the moon revolving around Mount Sumeru on the shoulders, and the gods residing just below that. This is another way of representing the Buddhist cosmology. It's not the six paths. It's not a circle. It uses a Buddha, perhaps a Vairochana Buddha, to represent as a backdrop for saying the entire cosmos is contained within the body of this Buddha. So that's another way of representing the cosmos. The interesting thing about the Kshitigarbha and Dizong paintings is that they have spokes, three spokes on this side, three spokes on that side, emanating from Dizong. But they don't have a rim. They don't have so in my definition, that wheel is very important, that it have some things that are not simply spokes. It has a hub or an axis. It has the spokes, of course, but it also has a rim. So those are some of the ways I distinguish between them. And they're all very flexible. They all can be put to different uses, as this is, and as the mythology of Dizong is put to different uses as well.
Les textes parlent à l'extérieur de la roue du Bouddha et d'un tertre symbolisant le nirvana. Mais ils ne parlent ni de la ni du soleil ni de la lune que l'on voit très souvent dans les représentations contemporaines. Quand est-ce que ça apparaît et quels sont les symboles du soleil et de la lune à l'extérieur du
Bouddha? Dans cette représentation dans les autres ça dépend. Ici, c'est une question de les deux astérismes, les deux, oui, représentent que they revolve around Mount Sumeru. Their meaning here is to draw attention to this. This is the center of the universe. This is a form. This is a kind of axis mundi, because the sun and the moon revolve around the cosmic mountain. In other representations, especially in the Tibetan side, they have many other meanings, which I'm not as well qualified to speak on.
Une autre question. Dans votre perspective historique, vous n'avez pas évoqué la route qui se trouve à Alchi. Alchi Monastery in North India, in Ladakh.
Yes.
Et il y a une très vieille roue également, vous ne l'avez pas évoqué. Yeah. De quand peut-on la dater?
Yes. Yeah. It is a very important, but it's also at the limit of my own research in my work here and in the book. I selected one particular temple in western Tibet, in Thabo. because I had better access to photos and documentation and the advice of the, especially of the group in Vienna that has been working at Tapo Monastery for many years, from Deborah Klimberg-Salter and Christian Luxanitz. There are earlier wheels of rebirth than the one at Tapo. So the Aalchi material is fascinating. The Pedongpo material, or Dongpu materials, which were shared with, which Monsieur Fournier shared with me in my book, publication to publish in my book, are also very important. But that is truly an area in which I am not an expert. So I simply chose the one temple I knew better in Tapo. So.
I'm sorry, it's going to be a bit technical, so okay. First ask in English, and then I'm going to translate myself.
Right.
We talked in Japan about two conflicting traditions representing the wheel.
Yeah.
The one you've shown, and the one which is very similar, which entered Japan in the 18th century, which is very similar to the tradition of the wheel. So it's interesting to ask how these Tibetan model, Indian model wheels entered Japan, because there were texts commenting on the uses of the wheel, very similar to the Chinese and Tibetan examples you gave in the book, that no one can date precisely when those representations, canonic representations of the wheel entered Japan. So I would like you, maybe if you have more precise datation.
I do you want to translate into French so that
il y a deux traditions de la roue au Japon, donc celle qu'a montré Professor Tizer effectivement avec le cœur au milieu des royaumes, mais on a aussi des modèles japonais à partir du 18e siècle qui sont tout à fait similaires aux modèles qui ont été montrés dans le monde en fait sino-tibétain. Le problème auquel on est confronté au Japon, c'est de savoir à quelle datation ce type canonique de ou avec ses commentaires, parce qu'il y a plusieurs commentaires japonais, y compris l'histoire narrative, sont arrivés au Japon. C'est la première partie de la question.
I have after how many years ago did we speak in Kyoto about this subject? 3-4 years ago? In those 3 or 4 years, I do not have a better answer. I have other my apologies. I've found other gaps I can report to you in my knowledge, and that is how the knowledge of the wheel was transmitted even on continental Asia, even on the continent, between the Silk Road, the Northern Silk Road, between Yulin, Gansu province, and between Tibet, the Himalayas. These are areas that are relatively close to each other, but we have very little sense of how artistic traditions were transmitted. The one answer, kind of answer I would give is that there were two ways in which the material was transmitted. One, of course, was because of the importance of the canon, and it's the Vinaya canon. So that wherever there are monks, there is a Vinaya, and the Wheel of Rebirth is clearly a part of one Vinaya. So wherever that Vinaya exists, there is at least knowledge of this tradition. Secondly, so that accounts for certainly for its dominance in Tibet, but it doesn't explain why it's found in medieval China. The second kind of transmission that takes place, clearly, is an artistic transmission. And I've tried to put the artistic tradition on its own independent footing. That may not be as apparent today in my lecture, but I would like to do so. That means that I would claim that artists who see paintings of the wheel are perfectly capable of studying it and transmitting it, as long as they have patrons who are willing to commission temples and ask them to suggest a layout or a design, so that there are at least essentially a canonical or literary route of transmission on the one hand, there's also a artistic route of transmission on the other.
Je m'étais posé une question, et grâce à tes pouvoirs extraordinaires, Shantung, tu as répondu pendant la seconde partie, mais quand même je vais la formuler. Je m'étais demandé s'il y avait des représentations artistiques du dogme très répandu par le Tiantai à partir du VIe siècle, de la parfaite identité du samsara et du nirvana, qui est accompagné de la parfaite identité des passions et de l'éveil. Alors cette très belle image du Bao Ding Shan, avec le donateur Bouddha au centre, donc le Bouddha bien au centre au lieu d'être en dehors, semble illustrer d'une certaine façon ce dogme. Est-ce qu'il y a des illustrations plus explicites? Cela d'autant plus que le fait qu'au Japon, la roue devient à 10 branches à cause des 10 royaumes, les Fachis, les Dharmadhatu, enfin, le sens est complètement différent, mais le sens primordial est quand même bien là. Et le Bouddha devient l'un l'un, alors qu'il était dehors, il devient l'un une des parties. Et en plus, on trouve souvent dans les textes dogmatiques l'opposition entre les 9 royaume et, pas l'opposition, la distinction entre les 9 royaumes et l'unique royaume de Bouddha qui englobe tous les autres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres illustrations? Cette illustration du Bao Ding Shan me semble tout à fait explicite, notamment, mais il y en a un petit peu.
From what I know, there are a few other illustrations comparable to that. And I call them elsewhere, I call them idealist interpretations of the Wheel of Rebirth. They seem to be less concerned with the precise philosophical position you described. It's an interesting philosophical position that is the identity between samsara and nirvana, the inability to distinguish, to draw that outer rim of the wheel that separates samsara and nirvana. Instead, the position seems to be, the painting, the sculpture at Bao Ding Shan, is that all realms are produced from the mind, and the mind or the heart, of course, resides here, not here. Hence, that's one of the reasons that sculpture is so interesting. The other example that I know of is also from Japan. I don't have a painting of it. I don't have a photo of it with me. And it is of, it goes back to the, it's similar to the print we saw earlier with the character for mind, seen Kokoro in the center of the, with the 10 paths emanating from it. And that is it's a pearl. Perhaps you've seen it. I believe it's an Edo print. It's a pearl with, in the shape of a mind, of the character for mind, with the 10 paths within it, which is a very beautifully simple way of making the point that the 10 realms are, or the 6 realms, are all constructed by the mind in some way. But that's the one I know of. Unfortunately, I don't have a copy with me. So.
Thank you very much for these very complete replies, which are a real extension to your lecture. En conclusion, je voudrais remercier aussi.
Pardon, une petite question.
Je suis désolé, nous sommes arrivés au bout du temps disponible, mais n'hésitez pas à poser votre question tout à l'heure directement au conférencier. Donc, je voudrais également remercier M. Jean-François Jarry, président du Musée Guimet, et son équipe qui organise conjointement avec l'École française d'extrême orientale le cycle de conférences. Et je tiens à remercier tout particulièrement le groupe LVMH qui, pour son soutien généreux de cette conférence. Merci à tous d'être venus et surtout un grand merci à Stephen Tanger d'avoir accepté notre invitation pour une communication tout à fait lumineuse. Merci.